Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de midi. L'actualité de ce jour est focalisée sur le centre des finances à Kinshasa qui accueille les travaux des états généraux du portefeuille de l'État. Des participants en venant de plusieurs horizons vont poser des diagnostics concernant les maux qui rongent les entreprises publiques. Nous en parlons dans ce journal. Nous irons aussi dans le sud de l'Oubéro où de violents combats qu'opposent depuis ce matin et pour le 8e jour consécutif les FRDC aux rebelles du M23. Je vous signale que ces combats se déroulent sur 4 fronts dans ce territoire du Nord Kivu. Un mot dans ce journal sur les conditions très précaires pour les habitants du village Lonioma, constat de l'administrateur en charge des questions politiques et administratives du territoire de Kailo Maniema, Émile Abdoulou Demouzé, va nous décrire ces conditions puisqu'il est notre invité. Encore une fois, bonjour. La ville de Kinshasa accueille à partir de ce lundi les travaux des états généraux du portefeuille de l'État. Durant 5 jours, ce forum se propose de faire des entreprises de l'État un puissant levier de la croissance et du développement social de la RDC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À l'initiative du gouvernement central, ces travaux vont passer en revue tous les maux qui rongent les secteurs du portefeuille de l'État. Les participants, qui viendraient de tous les horizons, vont poser les vrais diagnostics en examinant les maux dont souffrent les entreprises publiques, dont la plupart sont devenues des canards boités. Dans une dépêche parvenue à Radio Kapi, le ministre du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Boussa Tongba, a affirmé avoir prévu 6 panels à travers lesquels des éminents professeurs, des experts nationaux, dont les mandataires et des acteurs de la société civile, vont apporter leurs contributions sur les différentes thématiques retenues. Parmi ces panels, il y a entre autres les cadres juridiques, institutionnel du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques, la gouvernance et l'amélioration de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. Au sortir de ces états généraux, le ministre Boussa voudrait rendre les entreprises du portefeuille de l'État plus performantes et accroître efficacement leur contribution au budget de l'État.
Les regards des Congolais sont aussi tournés vers l'Assemblée nationale où la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics sera examiné à la plénière de ce lundi. Au cours de la même plénière, les députés nationaux examineront et adopteront le rapport de la commission ad hoc sur la salubrité à Kinshasa, mise en place à l'issue d'une motion d'information de l'honorable Matata Ponyo-Mapon. La commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi dernier au président de l'Assemblée nationale. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport? Michel Kifindangoy.
Conduite par le député Augustin Matata Mponyo, la commission ad hoc sur l'insalubrité à Kinshasa a focalisé son travail sur 3 axes majeurs. Il s'agit des facteurs causaux aggravants et contraignants de l'insalubrité, des constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville de Kinshasa, des actions prioritaires et objectifs stratégiques, ainsi que des recommandations et politiques d'atténuation et d'éradication. Augustin Matata Mponyo.
Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa. La population kinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question. Ils sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence.
Les détails de ce rapport seront communiqués ce lundi en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter les propositions globales de l'Assemblée face à ce fléau. Et c'est au cours de la même plénière que sera examinée la motion de défiance contre le ministre des ITPR, Alexis Guissarou.
Débat sur la Constitution, le ministre du Commerce extérieur et politologue lance un appel pour la révision constitutionnelle. Dans une analyse publiée sur les réseaux sociaux, Julien Paluku estime que les différents systèmes politiques appliqués en RDC n'ont pas pu sortir le pays des tâtonnements. Il explique ainsi la pensée politique du président de la République autour du changement de la Constitution. Ce débat lancé par Félix Tshisekedi ne donne pas lieu à un glissement, comme l'affirment certaines personnes, dit-il. Il demande aussi que les personnalités ayant une expérience avérée dans la gestion des affaires de l'État soient privilégiées au sein de la commission évoquée par le président de la République. On écoute Julien Paluku au micro d'Alain Irung.
À mon humble avis, ni l'État unitaire fortement centralisé, ni l'État unitaire fortement décentralisé n'ont constitué des réponses aux problèmes quotidiens des Congolais. Et donc, vivement la 4e République est pour moi l'unique voie par laquelle nous devons expérimenter d'autres mécanismes, à l'instar du fédéralisme, parce que pour avoir été gouverneur pendant 12 ans, j'ai dirigé le Nord Kivu, qui a une superficie de 59 000 km², c'est les Rwanda et les Burundi réunis. Et donc, je considère que autant l'ex-province orientale avait la dimension de la France, autant l'ex-Équateur avait la dimension du Portugal. Et donc, je crois que l'expérience des États-Unis avec les États fédérés pourrait inspirer l'expérience nouvelle de ce que j'appelle vivement la 4e République, et nous ne pourrions pas avoir de la honte à nous retrouver autour d'une table de réflexion pour en parler.
Je le disais en ouverture de ce journal, de violents combats opposent depuis ce matin et pour le 8e jour consécutif les FRDC aux rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero. Nous sommes dans le Nord Kivu. Les affrontements se déroulent sur 4 fronts où l'armée continue de contenir l'offensive lancée il y a une semaine par les rebelles appuyés par le Rwanda. Les détails avec Martial Papimukeba.
Les affrontements se concentrent à Matembe, un point d'ancrage stratégique partagé entre les FRDC et les rebelles. D'autres combats intenses sont signalés à Kasehe, Miobwe et Kibaku, des villages toujours sous occupation du M23. Depuis une semaine, les rebelles ont lancé à partir de ces zones une offensive visant à progresser vers des centres stratégiques comme Lubero Centre. Pour contrer cette avancée, les FRDC ont installé des centre de résistance et mène des opérations de défense mobile. Depuis dimanche, l'armée a repris le contrôle de Luofu, un village stratégique ouvrant l'accès à plusieurs axes majeurs, notamment en raison de sa proximité avec Kasehe et Matembe. Alors que les combats s'intensifient dans les sites de Lubero, les présidents congolais et rwandais sont attendus le 15 décembre prochain à Luanda. Sur place, ils participeront à un sommet tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Angola sous l'égide du président angolais João Lourenço. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Restons dans la région pour vous signaler que la situation reste très volatile ce lundi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Hier dimanche, l'atmosphère était très agitée à la suite des échanges des tirs ayant opposé les rebelles du M23 à l'armée congolaise et des groupes armés locaux sur au moins 4 fronts. Le théâtre des opérations était autour de la cité de Sake et sur l'axe Kibabi-Katoy dans les profondeurs du territoire. Situation très déplorable également pour les personnes déplacées de troisième âge, déplacées autour de Goma. Ils meurent en cascade dans ces sites, dans le camp de déplacés de Don Bosco par exemple. Au moins un aîné meurt chaque semaine. Non seulement ils sont moins nombreux, mais aussi le peu qui sont là ne supporte plus les conditions difficiles en déplacement. Les responsables de ce site plaident pour le retour rapide de la paix afin de sauver la vie des populations déplacées autour de Goma en général et ces personnes de troisième âge en particulier. Le point avec Rosalie Zawadi.
Dans les camps des déplacés de Don Bosco qui hébergent plus de 26 750 personnes, 3% sont des personnes de troisième âge. La raison, selon Justin Kamana, président des déplacés de ces sites, est que plusieurs vieillards n'ont pas pu fuir les combats dans leur village et ceux qui ont réussi à rejoindre les camps ne s'adaptaient pas aux conditions difficiles.
Hier, nous avons perdu un vieux et dans la semaine passée, on a perdu un autre. Donc si nous comptons par mois, on peut perdre au moins 7 à 8 personnes de troisième âge. ils ne sont pas capables de supporter les conditions difficiles dont nous vivons, notamment la carence des aliments, mais aussi nous vivons dans des bâches où les eaux de pluie font des intempéries, des eaux stagnantes dans les cabanes, et nous perdons un grand nombre de vieillards dans ces conditions.
Les traditions funéraires, essentielles dans la culture africaine, sont difficilement respectées en raison du manque de moyens et de l'urgence de la situation. Face à cette tragédie, les responsables du camp appellent les autorités à accélérer les actions en faveur de la paix. Ils demandent aussi que soit renforcée l'aide humanitaire pour les déplacés, en particulier les plus vulnérables. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Autre actualité, démarrage ce week-end des travaux de construction d'un parc automobile dans l'agglomération de Kitadila, territoire de Songololo. L'objectif est de lutter contre les stationnements anarchiques des véhicules à l'entrée de la ville de Matadi et du coup résoudre tant soit peu l'épineux problème des embouteillages sur la route nationale numéro 1 et rendre la circulation fluide dans la ville portuaire de Matadi. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Bilolo, en présence de plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée provinciale et les membres du gouvernement provincial. Reportage Nana Plurich Mambo.
Ce projet, exécuté par l'entreprise chinoise Hongfang Sarl, s'étendra sur une superficie de 7000 km² et offrira une capacité d'accueil de plus de 1000 véhicules poids lourds. Il vise à réduire les embouteillages sur la nationale numéro 1 en désengorgeant l'entrée de la ville de Matadi des véhicules qui stationnent anarchiquement en attendant l'heure indiquée pour leur entrée dans la ville. Sur cette aire de stationnement seront également aménagés des espaces de repos, des aires de jeu, des zones de restauration et divers services connexes en vue de mettre les usagers de la route dans les bonnes conditions. Le ministre provincial des ITPR l'a souligné dans son adresse. Jacques Mombo.
Cette infrastructure a pour objectif spécifique de répondre aux besoins d'une sécurité fiable et responsable au profit des usagers de la route, d'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, l'intégration harmonieuse de la population environnante, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant à proximité et les choix modaux.
Pour les chefs de l'exécutif provincial du Congo central, ce projet ambitieux va aussi booster l'économie dans la zone et surtout créer de l'emploi pour la population du Congo central principalement. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle en provenance de l'ex-Katanga, c'est la reprise du trafic ferroviaire sur l'axe Kalemie-Kindu et Lubumbashi. La première locomotive en provenance de Kabalo est arrivée à Kalemie il y a quelques jours. Le directeur de région des Grands Lacs de la SNCC appelle les opérateurs économiques à amener leurs marchandises à la SNCC. Pour rappel, le trafic a été interrompu depuis 11 mois à cause de l'effondrement du pont Luizi à la limite entre les territoires de Kabalo et Nyunzu. Le point avec Paulin Munanga.
La première locomotive numéro 18-10, tractant 17 wagons en provenance de Kabalo, a atteint Kalemie en passant par les ponts rail Luizi. Le directeur des régions des Grands Lacs de la SNCC annonce que le gouvernement a disponibilisé des moyens pour la réhabilitation de ces ponts. Sami Ilunga Waumba souligne que cette reprise du trafic ferroviaire soulage la population pour les transports et les opérateurs économiques pour le transport de leurs marchandises. Il précise que certains opérateurs économiques avaient laisser leurs marchandises dans les entrepôts de la SNCC depuis l'interruption du trafic. Pour rappel, depuis janvier dernier, les ponts jetés sur la rivière Luizi s'est effondré. Conséquence, le trafic ferroviaire a été interrompu sur différents axes. C'est notamment à partir de Kabalo vers Kindu dans les Maniema, en passant par Kongolo et Samba. Et l'axe qui mène vers Lubumbashi dans les Haut-Katanga, en passant par Kabongo, Kamina, Luena et Likasi. D'après une source proche de la SNCC à Kalemie, la vétusté du pont a été à la base de cette situation. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
La population de l'Onyoma au Maniema, elle, est dans le désarroi. Pas d'école secondaire, moins encore d'université dans ce village situé à 6 km de Kailo centre. Selon l'administrateur du territoire de Kailo, faute d'école secondaire, les enfants de ce village se lancent dans des activités minières après avoir terminé leur cycle primaire. La société civile et les activistes de droits de l'homme plaident pour l'implication urgente des autorités. Suivez ce reportage de Florence Kizalunga qui était sur place.
En plus de manquer les écoles secondaires et universitaires, la population de l'Onyoma n'a pas accès à l'eau potable et aux soins de santé de qualité. Erad Kuminga Moïse, président des droits de l'homme, plaide.
Ici précisément à l'Onyoma, nous manquons de l'eau potable, nous manquons aussi l'école secondaire et université, nous manquons de cela. C'est ça les difficultés de notre village de l'Onyoma. Pour faire l'école secondaire et université, il faut aller toujours à Kailo, donc nous avons des conditions difficiles. Nous n'avons qu'un poste de santé qui ne remplit pas les conditions. Les femmes aussi accouchent dans les mauvaises conditions. Les maladies traitées aussi dans les mauvaises conditions. Nous n'avons pas aussi des pharmacies. Il faut aller toujours à Kailo pour acheter les médicaments. Et cela demande beaucoup d'argent pour le transport, d'aller et retour. Ce que nous demandons, les conditions de route, les routes vraiment totalement impraticables pour nous. Nous avons besoin de l'intervention des autorités pour résoudre tous ces problèmes.
L'autorité locale qui confirme cette information, elle aussi réitère ses plaidoyers aux décideurs car cette population est exposée à tout vent de maladie. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, en marge de sa visite officielle au Qatar à l'occasion de la 22e édition du Forum de Doha, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son opposant Karim Ouad dimanche 8 décembre, l'entrevue placée sous le signe de l'ouverture malgré quelques désaccords entre les deux hommes est très commentée à Dakar.
L'invité.
Notre invité est Émile Abdoul Demouzé, administrateur en charge des questions politiques et administratives du territoire de Kailo. Il nous parle des conditions de vie des populations du village Lonyoma, se trouvant à 6 km de Kailo centre au Maniema. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Émile Abdoul, bonjour.
Bonjour madame.
Nous sommes au village Lonyoma. Comment vivent les habitants de cette partie de la province du Maniema?
La population de cette partie de notre entité ici vit dans une condition très déplorable, madame. Du fait que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des écoles. Donc, en bref, cette population ici vit par la grâce de Dieu.
Vous vivez par la grâce de Dieu. Quand vous parlez des écoles, c'est que les enfants d'ici n'étudient pas? Il n'y a aucune école?
Il n'y a que l'unique école, encore école primaire. Et puis, avec la démographie de cette population, avec l'unique école, qu'est-ce que ça va faire? Nous n'avons pas d'école secondaire, pas moins même d'université. Là, on ne parlait même pas.
Et quand les enfants d'ici terminent leur cycle primaire, comment est-ce qu'ils font pour entamer les cycles secondaires?
Non, madame, nous avons des sérieux problèmes. Souvent, vous allez observer, l'enfant pourra commencer son école primaire convenablement, mais aussitôt décrocher son petit certificat là, il est obligé d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école secondaire. Et s'il faut quitter ici, aller vers Kailo centre, ce n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants, quand ils terminent ces cycles primaires là, ils jugent bon de se plonger dans des carrés miniers pour faire les activités de la mine.
Dans votre village ici, les projets des 145 territoires n'étaient pas arrivés?
Effectivement, les projets étaient arrivés, mais madame, nous avons un sérieux problème. Même les matériaux pour nous arriver, ça a cassé tête. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. Pour que tu quittes Kindu, tu arrives à ce niveau ici, et en tout cas, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. La route ici, d'ailleurs, c'est une route nationale, RN31. Mais comme il y a eu rupture, parce que les ponts qui nous reliaient avec les autres territoires, ça a été cassé depuis bien avant. Bon, ce qui ne favorise pas l'interconnexion de nos entités.
C'est-à-dire comme le gouverneur de province venait de lancer les travaux de réhabilitation de ces tronçons ici, ça sera votre salier alors?
Vraiment, madame, en tout cas, nous sommes en train de remercier cette initiative combien louable de l'autorité provinciale. Mais ce que nous demandons, c'est l'aboutissement de ces travaux. Souvent, nous avons des mauvais souvenirs. Parfois, et quand les travaux commencent comme ça, ça prend assez de temps jusqu'à tel point que la population voit que non, et les autorités viennent que nous flatter ici pendant que ce n'est pas comme ça. Nous voulons assez que ces travaux aboutissent et que l'interdépendance de nos entités puisse s'observer et que la population puisse quand même se ressentir à l'aise.
Comme vous évoquez les problèmes des routes, maintenant avec vos produits des champs, vos produits agricoles, comment est-ce que vous faites pour les acheminer vers les centres de consommation? Est-ce que ici, localement, vous avez un marché?
Nous n'avons pas un marché, madame. Ce que nous produisons, c'est à notre consommation propre. Voilà pourquoi vous allez observer, nous cultivons et que si nous avons des productions, ça va terminer que pour la consommation. Parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer. Vous savez, pour qu'il y ait le développement de nos entités, la première des choses, c'est l'aménagement de la route. Si nous n'avons pas de route, en tout cas, même si nous produisons des tonnes et des tonnes, comment est-ce que nous allons les évacuer? Le grand problème, c'est la route. Comme l'autorité vient de faire ça, nous sommes en train de remercier le bon Dieu.
Et côté sanitaire, est-ce que le village Lonyoma a un hôpital qui prend la population en charge correctement?
Pas tout à fait, madame. Nous avons un petit poste de santé que nous avons, qui n'a même pas des agents. Bon, nous vivons en carver, madame. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons ici. Nous avons un poste de santé là, qui n'est pas équipé, qui manque même les médicaments. C'est ainsi que nous appelons les autorités à poster leur regard ici, chez nous. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un territoire qui n'a même pas 30 km de route en bon état. Donc, nous vivons que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous invitons les autorités de nous venir en aide pour que nous puissions quand même expirer et avoir observé le développement, afin que l'interconnexion puisse s'observer dans notre entité.
Monsieur Émile Abdoun, merci.
Merci beaucoup, madame.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Si vous l'avez aimé, je vous dis tout de suite qu'il a connu le concours rédactionnel et technique de Martin Sebou-Jangoué, Élisée Tchikota et de Polydor Basunga. Bon après-midi à tous.